cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 25 février 1993.
Du principe à la cause. L'induction se termine à un principe. Ce principe est cause. Mais ce n'est pas la même chose, le principe et la cause. L'âme est principe, principe de vie. Et elle est cause de vie selon ces trois niveaux. Donc c'est bien le comment qui s'introduit, mais un comment très élevé, celui de la causalité. La causalité est déjà un comment, elle est principe et comment. C'est ça qui est très curieux, et c'est ça qui est très intéressant à voir, du reste aussi. Vous voyez, le comment a des niveaux très différents. Il y a le comment philosophique, il y a le comment au point de vue traité de l'âme et le comment psychologique, c'est pas le même comment. Là, si vous mettez tout ça dans le même sac, c'est en fait de la pourriture. C'est pas le même comment du tout. Il y a le comment philosophique et le comment psychologique. Il y a le comment scientifique de la loi et il y a le comment philosophique. Il y a le comment d'Auguste Comte, et puis il y a le comment d'Aristote. C'est pas le même. Parce que le comment d'Auguste Comte rejette le principe, le pourquoi. Et le comment philosophique s'appuie sur le pourquoi. Il implique le pourquoi. Tandis que le comment scientifique ne l'implique pas. Alors c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une abstraction formelle en science. La science est beaucoup plus formaliste que la philosophie. La philosophie implique tout le temps le jugement d'existence. Et en philosophie du vivant, elle est toujours liée au corps. Tandis que la psychologie... psychologie habituelle, puisque là encore il y a diverses psychologies, regarde des lois. Alors, pose-t-on une personne propre pour chaque degré de vie? Pardon, pose-t-on une puissance propre pour chaque degré de vie ou pour chaque opération? On pose. Il y a deux différences. Il y a les degrés de vie. Et dans les degrés de vie, je préciserai les diverses opérations. Et donc les diverses puissances. Vous voyez ? Autrement dit, l'analyse est de plus en plus particulière. pour ça que, vous voyez, c'est vrai de dire le comment. Mais alors, il y a deux comment. Il y a le comment, la recherche de le comment, de tel degré de vie, qui va impliquer telle et telle puissance. Nous allons voir ça du reste. Pourquoi découvre-t-on deux propriétés de l'âme ? Forme et acte du corps et spirituel. Pourquoi découvrir deux propriétés de... C'est pas deux propriétés. Oui, oui, je vois. C'est plutôt deux puissances de l'âme, forme et acte du corps. C'est pas des propriétés. Hein. Et spirituel. Spirituel, c'est sa nature. C'est pas sa propriété. Elle est spirituelle. Sa manière d'exister, elle existe spirituellement et elle est forme et acte. Alors, elle est forme et acte parce que, de fait, comme la nature détermine, spécifie et aussi implique le point de vue de la finalité, alors qu'on découvre trois degrés de vie, la vie sensible est-elle un bitaxu nécessaire entre les deux propriétés, entre les deux niveaux. On verra ça au terme. Continuons. Vous verrez mieux, je crois. Alors, analysons la vie végétative. D'abord, précisez pourquoi on commence par la vie végétative. Depuis Descartes, on commence par le cogito. Depuis Descartes. Descartes a inversé l'ordre de la philosophie du vivant. Et voyez pourquoi. On est là en présence d'une philosophie de la vie objective. On est là en présence d'une philosophie, d'une science, ou d'une philosophie qui se veut philosophie subjective. On commence par la subjectivité transcendantale. Au lieu de commencer par ce qui commande en premier lieu la vie. Vous voyez, subjectivement, vous connaissez mieux l'intelligence que la nutrition. Ça, j'espère. La nutrition, ça reste assez obscur, hein. Je m'en aperçois quand j'ai mal à l'estomac. Je digère. J'ai pris un trop bon repas le mardi gras soir. Et le mercredi décembre, c'est pas pour vous, j'ai un arrière. Et le mercredi décembre, je digère toute la journée. C'est une manière de passer son mercredi décembre. J'ai mal à l'estomac, donc je m'aperçois que la digestion est dure. Quand je n'ai pas mal à l'estomac, je ne m'aperçois pas de la digestion. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'intelligence. Je connais tellement bien que je ne m'aperçois même pas que je pense. C'est comme ça que vous passerez un examen. Je ne m'aperçois plus que je pense. Parce que c'est devenu pour moi mais tellement comme naturel. Je pense tout le temps. À propos de sa foi, de la foi. Pour moi, la foi est tellement intégrée dans ma vie que je n'ai plus la foi. Tellement intégrée. Alors, Aristote commence par la vie végétative. Donc, j'ai le choix, ou Descartes ou Aristote. Et je dois me poser le problème, parce qu'on a été très vite dans les degrés. Je reviens un instant là-dessus parce que c'est important et qu'on se pose toujours la question et on doit se la poser parce que j'ai un topic historique, j'ai les deux points de vue. Alors c'est pas parce qu'Aristote le fait que je le fais. Je me dis Aristote a des raisons dans ce caractère substantiel de la vie fait que, pour le philosophe, c'est quand même là où la modalité de la vie est la plus manifeste. Personne ne met en doute la vie végétative. Tandis qu'on peut mettre en doute la vie spirituelle ou la vie intellectuelle. On est en face de biologistes aujourd'hui qui mettent tout leur effort pour étudier la vie végétative, la vie sensible. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, il l'a dit. Pour eux, il n'y a pas d'esprit. L'esprit se ramène tout simplement à l'imagination. Aristote notait déjà cela, que des quantités n'arrivaient pas à dépasser la fantasia. Alors, je commence par la vie végétative parce que c'est la plus manifeste pour moi. Il faut toujours commencer philosophiquement parce qu'elle est plus manifeste. Personne ne conteste la vie végétative. C'est pas non plus à cause de ça que je commence par la vie végétative. Mais personne ne la conteste parce qu'elle est la plus manifeste. Et je commence par la vie végétative parce qu'elle est la plus manifeste. Et dans la vie végétative, la respiration et la nutrition sont les deux actes les plus fondamentaux, les deux opérations vitales les plus caractéristiques. Le vivant, c'est celui qui se nourrit, avant tout. Et ceci, c'est encore vrai. Pour nous, la science n'a rien changé à ça. Vous voyez, le signe de la mort, la respiration. De la mort apparente. On met le miroir en face du visage de celui qui vient d'expirer pour voir s'il y a encore respiration. Parce que le miroir est plus sensible que ma main. C'est la respiration qui est le signe du vivant, la manifestation du vivant. Et de la respiration, je vais à la nutrition, l'aliment et la boisson. Donc il y a les trois. Vous voyez, on se nourrit de l'air, on se nourrit de l'eau, on se nourrit de l'aliment. Et l'aliment, c'est d'abord un aliment végétarien. Parce que certains veulent ne pas accepter un aliment qui provient des animaux. Mais ça ne change à rien du tout à la nutrition, si on est végétarien ou pas végétarien. Si tu restes comme ça, il faut leur montrer que c'est très bien d'avoir cette superstition. Mais c'est pas obligatoire. Que dans le monde d'aujourd'hui, ce soit bien d'être végétarien parce qu'on mange trop de viande. Que dans notre monde d'aujourd'hui, les pauvres prennent un régime végétarien par amour pour les pauvres, très bien. On peut très bien se nourrir sans prendre de viande. Et tout le monde dit, ceux qui sont habitués, il ne faut pas changer trop vite. Alors ça, c'est une question de régime. Ça ne regarde pas le philosophe, c'est le dernier des pauses. Rires. dans son autonomie. Il est dépendant du cycle maternel. Et il est dépendant du rythme de la vie de la mère. Et s'il naît avant terme, on doit inventer artificiellement un climat particulier, étant donné sa fragilité. Il n'est pas encore adapté à notre climat. Et c'est extraordinaire de voir comme c'est bien fait. Tout vivant a besoin d'un milieu. Et plus le vivant est fragile, plus il est dépendant du milieu. Au point de vue végétatif, c'est très très net. Vous voyez, quand vous êtes fragile, vous êtes beaucoup plus dépendant du milieu et vous apercevez d'un tas de choses. Et quand vous êtes malade et que vous vivez dans un climat, un milieu très dense, qui est le milieu d'une vie religieuse, ça devient insupportable. Parce que vous entendez des claquements de portes partout, vous entendez des pas partout, vous entendez... impossible. Parce que vous dépendez beaucoup plus du climat. Il faut être bien portant pour supporter la vie religieuse. Ça, c'est évident. Parce que c'est un climat très dense. Mais on souhaite tous, et j'avais rêvé ça, mais c'est comme les rêves, ça ne se réalise pas, c'est pas une finalité. Mais on a des petites maisons de 10. La vie serait 5 petites maisons, avec évidemment la maison reine au milieu qui serait de permettre. Et puis il y aurait 5 maisons autour. Ça ferait 50. Ce serait beaucoup mieux qu'un troupeau de 50. C'est beaucoup mieux. C'est bien mieux, bien mieux. Le troupeau s'organise pour être moins troupeau, mais la quantité risque toujours de l'emporter sur la qualité. Le poids de la quantité. Il faut réfléchir là-dessus, c'est très important. Parce que quand on a réfléchi là-dessus, on s'énerve moins. Oui, c'est vrai, ça doit être comme ça. On pourrait supprimer la... Ah, attention, vous êtes 50. Et c'est une densité de communauté, mais très intense, anormale, au point de vue naturel. C'est un peu superficiel, artificiel. On peut difficilement faire autrement, il faudrait être beaucoup plus riche. Vous voyez, l'astuce est chartreuse. Chacun sa maison, c'est royal. Et c'est vrai, les chartreux ne mettent pas du tout la pauvreté comme nous la mettons. C'est pas la pauvreté que ça. Parce que tout est ordonné vers le point de vue de la contemplation. Alors, ça que certains disent dans un monde comme le nôtre, est-ce que c'est encore un témoignage évangélique? Je comprends qu'on se pose la question. Parce qu'avoir chacun sa petite maison, c'est merveilleux. Appartement en bas, appartement en haut, et un escalier au milieu, c'est du très bon, une très bonne architecture. Pour avoir deux climats, deux zones de climat différents. Il y a un petit jardin, c'est un lieu. Un petit jardin. D'agrément, on ne plante pas de pommes de terre dedans. Des petites fleurs. Je n'ai rien contre, mais je constate philosophiquement, ça m'intéresse. Mais la pauvreté est venue avec le souci d'une communauté pauvre, une communauté pauvre, peut pas avoir chacun sa maison. C'est déjà bien d'avoir chacun sa cellule. C'était très très pauvre, on n'aurait pas chacun. Mais comme la pauvreté est en vue de l'apostolat et que l'apostolat demande des études, alors on ne peut pas. C'est très difficile d'étudier toute la journée comme ça. Vous voyez ça? Il y en a qui ne pourraient pas penser. On a besoin d'être seul pour travailler. On a besoin d'être seul pour contempler. Parce que la solitude, vous voyez, diminue le poids du comportement, du poids du corps. Tandis que la vie commune additionne le comportement du corps. Vous, à 50, vous pesez combien? C'est assez lourd. C'est un camion, un gros camion qui passe. 50. Il faut penser à tout ça philosophiquement. La vie végétative, l'agrégat de la vie végétative, la solitude de la vie végétative, puisque la vie végétative commande tout ça. La vie végétative nous conditionne terriblement. C'est un conditionnement substantiel. Donc je ne peux pas m'en passer. Je n'ai pas le droit de rayer en disant ça n'existe pas. Pas du tout, ça existe. Et ça existe terriblement. Et quand je suis fatigué, le poids du corps est plus grand. C'est pour ça qu'il faut être très miséricordieux pour ceux qui ont une fragilité comme naturelle. Et qui n'arrivent pas à se dépasser ça. Il y en a. Alors on dira, c'est un signe de non-vie religieuse. Si vous ne pouvez pas mener une vie commune. C'est vrai et pas vrai. Il faut dire peut-être que ce n'est pas ce genre de vie que vous devez vivre. Il y en a d'autres. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'étant donné la fragilité des estomacs et du psychisme. Il faut penser sûrement à quelque chose de spécial. Sûrement. C'est ce que certains de la communauté Saint-Jean plus fragile me disaient, est-ce qu'il ne faudrait pas faire à côté de la communauté une petite communauté qui soit à petite maison. J'avais rêvé en pensant à la communauté quand j'ai su qu'il y avait. Je t'ai dit, il faut peut-être faire ça. Mais le conditionnement de la pauvreté s'impose. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Autrement, j'aurais fait comme ça. Ça m'aurait semblé plus proche de la fragilité de notre monde aujourd'hui, de la précarité de notre monde aujourd'hui. Alors, la vie végétative, on a besoin d'un climat. Le premier climat, c'est la respiration. Et ceci devient pour nous un problème tragique avec la pollution. Et vous savez que la pollution est plus dense plus on est proche du sol. Ce qui est normal, c'est le poids de l'air. Le cadavre, qui est lourd. Alors, vous voyez, pour les enfants, qu'on traîne en petite charrette. Ils respirent un air pollué. Tandis que leurs parents debout. sans respirer un air pollué, qui ne peuvent pas vraiment, mais ils viendront rachetis toute leur vie. Le rachetisme premier qui vient des deux premières années, des trois premières années, élevé dans une ville. Tandis que si vous êtes à la campagne, les vaches polluent moins l'air que les automobiles. Et donc, ils ont un air beaucoup meilleur. Donc, la respiration. On respire et on assimile l'oxygène. On en a besoin. Première assimilation, la respiration. Et c'est la dernière assimilation, la respiration. Quand on n'assimile plus, on ne peut plus respirer. Et quand vous voyez quelqu'un qui a de la difficulté à respirer, vous dites, ah, tant qu'il mange, pas de danger. Mais le jour, il ne peut plus manger. Alors on commence à ne plus pouvoir manger de la viande. Et ainsi de suite, vous voyez, une dégradation qui est très curieuse, qui est très intéressant du reste à voir, parce que c'est dans la dégradation qu'on voit le mieux la chose, toujours l'aspect négatif, qui fait que, et en dernier lieu, c'est l'oxygène, vous ne pouvez plus respirer. Et vous avez besoin qu'on vous donne un air très pur, des ballons d'oxygène. Parce que le vivant, c'est celui qui assimile, qui fait que ce qui est extérieur devient intérieur. Alors, il y a l'assimilation de la nutrition, celle-là est beaucoup plus facile à comprendre. Celle aussi de la boisson. Et voyez, vous pouvez vivre uniquement en prenant la boisson appropriée. Vous pouvez, parce que c'est plus facile, ça demande moins d'efforts. Il y a un effort, hein. On est une petite usine, ou plus exactement, l'usine copie ce qu'on est. C'est extraordinaire de voir ce que ça représente comme calories pour pouvoir assimiler, pour pouvoir vivre une journée, parce que vous assimilez tout le temps, vous respirez tout le temps. Oui. Et cette réflexion que j'ai dit déjà, qui m'avait tellement impressionné, c'était sitôt la guerre. J'étais en Suisse et j'allais voir dans les lieux où il y avait des hôpitaux contre la tuberculose, pour les tuberculeux. Tous les tuberculeux qui étaient tombés malades pendant la guerre, au front, au maquis. Il y en avait d'autres aussi. Mais c'était avant tout ces camps de militaires. Et puis à côté, il y avait d'autres camps. Il y avait des lieux qui étaient réservés à ça. Alors j'essayais de m'évader de Fribourg au moins un après-midi par semaine pour aller auprès d'eux. Parce que ça, c'était magnifique comme apostolat. Les tuberculeux sont si magnifiques. On a l'impression que Dieu permet cette maladie pour qu'ils s'approfondissent et ils s'intériorisent. Un tuberculeux devient, quand on voit à la fin de sa vie, c'est extraordinaire, l'affinement du corps. Il y a ça et le cancer fait des choses analogues. C'est douloureux, mais c'est en même temps, bon, ils sont de plus en plus conscients. Et je voyais là, à côté des hôpitaux militaires, d'un hôpital pour laïcs, il y avait une petite carmélite que je connaissais bien, qu'on avait envoyée là, parce que elle était extrêmement contagieuse, et puis c'était la fin. Et alors elle me faisait cette réflexion. Oui, mes amis, je lui demandais s'il y avait des personnes qui venaient le voir. Oui, j'ai quelques amis qui viennent, ils m'ont repéré comme carmélite. Après avoir passé toute la journée sur leur ski, en plein air, ils viennent me voir. Et c'est terrible pour moi. Je ne dis rien, mais c'est terrible pour moi. Ils apportent une respiration de grand vent, de grand soleil, Et moi, je restais toute ma journée en me demandant si c'était pas la dernière respiration. J'ai tellement de peine à respirer. Vous voyez, c'est cette chose de celui qui sent qu'il a de la peine à respirer. Il étouffe. Et arrive sans penser à ça. Elle leur disait pas, c'est évident. C'est parce que je l'interrogeais. Et je l'interrogeais parce que je voyais bien combien elle souffrait. Alors par charité, elle ne disait rien. Et elle portait ça. Vous voyez, c'est là où on voit ce que c'est que la respiration, ce que c'est que l'assimilation. Cet aspect vital qui est une conquête sur le milieu. Le vivant est un conquérant par rapport à la matière. Par rapport à la matière, par rapport à l'air, par rapport au milieu dans lequel il est. Il utilise le milieu. Le vivant est terriblement égocentrique. La vie se manifeste d'abord par l'assimilation. Et l'assimilation, c'est tout ramener à nous. On ramène tout à soi. Pour vivre. On est victorieux. C'est un caractère très curieux et très spécial, mais très important. Parce qu'on devrait toujours se rappeler ça au point de vue psychologique. Que le vivant est un victorieux par rapport au milieu dans lequel il est. Et il s'impose. Et plus il est vivant, plus il s'impose. Et plus il est capable de choisir son milieu pour le milieu qui, pour lui, est le plus adapté. Alors vous voyez, dans l'assimilation, il y a l'adaptation. On n'assimile pas n'importe quoi. C'est le semblable. Tu vois, comme dit Aristote, hein, pour la nourriture, le contraire est le semblable. Et dans le contraire, on prend le semblable. Parce que c'est le propre de l'assimilation. C'est le semblable victorieux du semblable, de ce qu'il peut vivre, de ce qui est capable d'être assimilé. Et on rejette tout ce qui n'est pas assimilable. Et le vivant est celui qui fait ce discernement entre ce qui est assimilable et ce qui ne l'est pas, ce qui est toxique. Il y a toujours un élément toxique. Et quand l'air est trop pollué, l'élément toxique l'emporte. Alors si on n'est pas assez vivant, on n'est pas assez victorieux, on ne peut plus respirer. On étouffe, situation limite. Le milieu vous étouffe parce qu'on n'a plus assez de vitalité pour faire le discernement entre l'élément assimilable et l'élément toxique qui n'est pas assimilable et donc qui vient, que le vivant porte et que le vivant doit rejeter parce que autrement il étoufferait de l'intérieur. Vous voyez, je crois que c'est là que le philosophe regarde toujours ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il est devant toujours quelque chose d'extraordinairement complexe. La vie, comme belle, échappe. Je ne sais pas ce que c'est que la vie. Je vous ai déjà dit, ce professeur Marois, donc qui a lancé l'Institut de la vie, m'avait dit une fois, on a une grande réunion avec mes 15 grands savants, on va chercher à savoir la définition de la vie. Alors, j'ai presque éclaté de rire à ça. Je dis, ça m'amusera beaucoup de savoir la définition de la vie. Il m'a dit, ah, pourquoi vous êtes sceptique? Et je dis, on ne peut pas définir la vie. On ne peut pas définir la vie. Vous allez donner les éléments nécessaires pour que le vivant devienne végétatif puisse vivre, mais ce n'est pas la vie du tout. Rassembler tous ces éléments et souffler dessus. Qu'est-ce que c'est que la vie? Alors il est revenu tout triomphant. Vous aviez raison. On n'a pas défini la vie. Je dis, bon, ça prouve que vous êtes intelligent. On ne définit pas la vie. Vous voyez, pour constater le vivant, celui qui se meut. Et je lui ai demandé en tant que biologiste, quand c'est lui qui sonne. Ah, oui, c'est très juste. Il ne va pas dire autre chose. Il se meut de l'intérieur. Donc, avec la vie et la vie végétative, apparaît l'immanence. Tandis que dans la vie physique, il n'y a pas d'immanence. Et dans le fait même, dans la vie physique, il n'y a pas de repos. Un être purement physique ne se repose jamais. Il y a vie, il y a repos. Et donc, dès qu'il y a vie, il y a rythme. Parce qu'il y a mouvement, il se meut et il se repose. Celui qui se meut peut se reposer. Et on peut se reposer grâce à l'immanence. Quand il n'y a pas d'immanence, possible, il n'y a pas de repos. Parce que immédiatement, un autre vous prend sa place. Tandis que le repos, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est très beau de voir que le vivant implique repos et mouvement. Hein. Et le mouvement est premier. Je ne définis pas le vivant par celui qui se repose. Hein. Parce qu'alors, je vous dirais, reposez-vous pendant tout le carême, vous seriez des grands vivants. Non, celui qui se meut, c'est le vivant. Et celui qui conquiert le milieu dans lequel il est, en se l'assimilant. Ça, c'est le vivant. Et le vivant crée un espace, une immanence de vie. Il y a une immanence. C'est pas le vide, l'immanence. La nature horreur du vide. Mais c'est un rythme. Il y a un rythme. Il y a vous voyez, il y a presque, je dirais, un mouvement circulaire. Continue et par le fait même il y a un rythme. Alors le repos n'est jamais le repos total, c'est le mouvement qui ne s'accélère plus et qui se repose. Le vivant se repose. Donc ce qu'il faut retenir au point de vue philosophique, ce qu'il faut constater au point de vue philosophique, c'est que tout vivant qui se meut, crée un milieu intérieur. Et c'est l'immanence du vivant. Et ce milieu intérieur existe dans ce rythme particulier. Une accélération de celui qui se meut et d'un repos, d'une détente. Avec l'apport d'un élément extérieur qui est transformé par la virtus de la vie végétative, la puissance de la vie végétative, qui est capable de transformer. Alors, la science regardera tout le comment de cette transformation. Quels sont les éléments qui transforment? Quels sont les éléments actifs? Alors vous avez toutes les réactions chimiques. Mais les réactions chimiques ne sont pas la vie. La vie est au-delà de ces réactions chimiques que je peux étudier. Je peux étudier toutes les réactions chimiques. Comment, si je mets un acide, qu'est-ce qu'il va avoir? Si vous prenez trop d'aliments acides, qu'est-ce qu'il va avoir? Votre estomac va souffrir. Si vous prenez trop, et ainsi de suite, hein, tout ce que représente l'étude médicale de l'assimilation, toutes les réactions chimiques qu'on étudie, les compensations qu'on peut faire, alors ça c'est toute la médecine. Ars adjuvans naturam. La médecine, c'est un art qui vient aider la nature. Et la médecine, progressivement, s'est transformée en science. Ce qui est une hérésie. La médecine est un art. Ça explique qu'il y a des médecins extrêmement savants qui sont très mauvais médecins. C'est le professeur Marois qui me disait « Je suis médecin avant tout ». médecin aide l'homme à guérir. Et c'est le vivant qui guérit. Je redeviens vivant quand je sors de maladie. Alors dit le médecin, vous a guéri, pas du tout. Ou la médecine vous a guéri, pas du tout. C'est vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est tellement attentif à ce qu'on appelle le moral du malade. Et quand quelqu'un ne pense plus qu'une seule chose à mourir, il mourra forcément. Parce qu'il n'y a plus cette force de conquête du vivant. Oui, alors, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'assimilation. C'est le vivant qui est victorieux du milieu. C'est la subjectivité transcendantale du vivant. Il y a une subjectivité transcendantale du dans la vie végétative. Et l'assimilation est tout simplement le fruit de cette subjectivité transcendantale du vivant sur la maladie, sur l'aliment. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas diverses assimilations. Il y a une assimilation.